On s'est intéressé à l'histoire de la pomme de terre pour deux grandes raisons, en fait. Il nous semblait que l'étude d'un produit permettait, dans une lecture d'histoire économique, d'histoire des techniques et d'analyse de l'innovation, de se saisir d'un champ qui est extrêmement vaste. Au fond, la pomme de terre est probablement l'un des aliments qui a concouru au développement démographique et au développement des civilisations, au même titre évidemment que d'autres plantes et en particulier des céréales, mais un produit alimentaire qui a été au cœur d'un certain nombre de développements de sociétés et qui a, lorsque la pomme de terre est venue à manquer, a montré à quel point elle pouvait être un support de subsistance absolument indispensable. On peut référer à la grande crise, à la grande famine irlandaise et dans les Flandres de 1845-47. On peut référer aussi à la diminution des récoltes lorsqu'un certain nombre d'épidémies ou de problèmes des cultures, comme l'invasion du Doryphore dans les années 20, ont concouru à affaiblir considérablement la production de pommes de terre, avec des crises qui sont presque assez semblables à celles du phylloxéra pour la vigne. Donc il y a, à travers ce produit-là, du point de vue d'une histoire agricole, il y avait déjà des entrées qui étaient très importantes. Ensuite, il y a des entrées en termes d'histoire de la consommation alimentaire, puisque nous travaillons sur l'alimentation, on se détache assez vite de la question agricole ou rurale pour entrer dans un autre domaine qui est le nôtre sur l'histoire des pratiques alimentaires. Et là aussi, il nous semblait que c'était un champ d'étude très intéressant dans la mesure où la pomme de terre a connu des phases multiples d'appropriation ou de refus. On connaît l'histoire de la pomme de terre sous le phénomène d'une introduction qui est d'abord celle de la curiosité, curiosité agronomique, curiosité de l'échange, puis d'un certain nombre de qualificatifs qui invitent la grande majorité des populations à repousser ce tubercule ou en tout cas à ne pas le vouloir pour leur table, puis à une phase de développement de cette consommation de la pomme de terre qui passe d'un côté par des consommations populaires, de l'autre par une sorte d'annoblissement gastronomique sur les tables bourgeoises à partir du début du XIXe siècle. Donc il y a des phénomènes, des cycles sur lesquels on peut s'interroger comment s'est nouée cette relation avec la pomme de terre, cette acceptation ou ce refus de l'introduction de la pomme de terre sur la table, et donc quelles sont les voies ou les canaux de l'innovation alimentaire vue à travers l'exemple de la pomme de terre. Et à partir de là, eh bien, le sujet nous semblait suffisamment vaste et large pour s'y intéresser. Et puis, d'une question qui était, à la limite, une question une discussion de couloir, quoi, de s'interroger sur des sujets intéressants, la conjonction du calendrier a entraîné une motivation d'intérêt supplémentaire. Ce que je vais vous présenter cet après-midi, ce sont plus quelques flèches ou quelques éléments de discussion pour montrer l'importance ou les questions que l'on est en train de se poser sur la dynamique d'innovation que la pomme de terre a pu engendrer. Et c'est des questions qui n'ont pas toutes leurs réponses. Je pose le fait que ce soit un sujet dont vous imaginez aisément que l'on puisse s'emparer avec de nombreuses études, mais il y a encore énormément à faire. Il y a en tout cas de nombreuses pistes à déployer. Dans les usages de la pomme de terre et dans les thèmes sur lesquels on pourrait travailler, quand je parle d'innovation alimentaire, on peut s'intéresser aux innovations qui sont des innovations techniques. Peut-être que faire une thèse sur le couteau éplucheur, ce serait peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, il y a des innovations techniques dans le pelage de la pomme de terre, l'utilisation, sa consommation en cuisine, qui pourraient être mises en avant comme des simplicités d'usage, des diminutions de pénibilité du travail et l'introduction, par le biais de l'histoire des techniques, d'un certain nombre de transformations qui ont concouru certainement à l'introduction ou au développement de la consommation de pommes de terre sous des formes diverses. il y a une sorte de chronologie, d'histoire des techniques que l'on pourrait poser d'entrée, qui est une sorte d'histoire très longue de la pomme de terre, qui depuis son introduction jusqu'aux années 1950-1960 a reposé à peu près sur une question fondamentale, c'est-à-dire quand la pomme de terre a-t-elle été intégrée dans les usages alimentaires, et une fois qu'elle était intégrée, comment a-t-elle été déployée dans les menus entre des consommations populaires classiques et finalement assez limitées, et puis des consommations qui relèvent du gastronomique et qui ont permis de donner à la pomme de terre une autre lecture culinaire que celle qui était la plus simple, c'est-à-dire d'une alimentation pauvre, mais en même temps très nutritive et de base. Alors, cette question-là, elle a trouvé une réponse différente à partir des années 1950-1960, parce que le développement de l'industrie de la transformation de la pomme de terre a complètement bouleversé les règles du jeu, à la fois dans la sélection des variétés pour développer des usages de pommes de terre associés à certaines industries de transformation. Elle a engendré également le développement d'industries de transformation spécifiques qui ont eu des réponses de marché à des demandes sociales qui étaient extrêmement différentes en fonction des pays. On voit par exemple dans les années 1960 ou 1970 des réponses des ménagères à l'utilisation de la pomme de terre transformée. Vous verrez tout à l'heure un graphique qui sont complètement différentes par rapport à ce que l'on connaît aux États-Unis et ce que l'on peut mettre en regard de la situation française. Donc bouleversement des usages, bouleversement des industries, bouleversement des pratiques, bouleversement des modes de consommation alimentaire, on pourrait par de multiples sources s'intéresser à ces questions. On va aborder les choses en trois séquences chronologiques qui, dans un premier temps, est vraiment une histoire longue, puisque de l'introduction de la pomme de terre jusqu'à son intégration dans les modes de consommation en France, intégration dans les modes de consommation qu'on peut stabiliser autour du dernier tiers du XVIIIe siècle. C'est véritablement à partir de là que l'on peut considérer qu'il y a une césure assez nette, une première phase qui concourt au processus d'innovation. Ensuite, il y a une deuxième phase qui s'étage sur du milieu du XIXe siècle jusqu'aux années 20-30 à peu près, où l'intégration de la pomme de terre dans l'alimentation est acquise. Sa diversification gastronomique peut prendre des chemins divers. En revanche, beaucoup de questions naissent sur les pratiques culturales, les types de variétés, la résistance à un certain nombre de fléaux, la création d'organismes scientifiques pour encadrer le contrôle du plant ou le développement de la pomme de terre. Et puis il y a une troisième phase, une troisième séquence chronologique qui démarre dans les années 1950, donc une phase beaucoup plus courte, et dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, 1950 jusqu'aux années 2000, séquence que l'on pourrait d'ailleurs diviser en deux parties. Une première séquence qui est celle du développement de l'industrialisation de la pomme de terre et de l'abandon dans les pratiques culinaire d'une consommation de la pomme de terre classique, c'est-à-dire le basculement dans la consommation de la pomme de terre d'une consommation de pomme de terre fraîche à une consommation de pomme de terre qui est déjà transformée. Les données sont quand même assez impressionnantes. 1900, les Français consomment à peu près en moyenne, alors évidemment avec des variables régionales, locales, familiales, sociales, bien sûr, mais en moyenne, consomment 320 kilos de pommes de terre par an, de pommes de terre fraîches. Si l'on fait un saut d'un siècle, on est ramené à 30 kilos en moyenne par an. Donc, on s'inscrit, vous voyez, avec ce basculement des années 1950 dans une diminution de très longue durée qui est en réalité la décroissance de la consommation de pommes de terre fraîches. Pour des raisons multiples, l'une des raisons est la qualité finalement médiocre de la pomme de terre qui est consommée. C'est-à-dire que l'appétence suppose qu'il y ait une amélioration culinaire véritable pour pouvoir trouver un intérêt à la consommation de certaines pommes de terre. Farineuses, mal présentées, des tubercules coupés, plus ou moins endommagés lorsque la ménagère les achète, tout ceci ne plaidait pas dans les années 50 en faveur de la consommation de la pomme de terre fraîche. Et du coup, la pomme de terre transformée, entrant dans le jeu, là, a introduit des éléments nouveaux qui rendaient cette consommation beaucoup plus attractive. Et puis, dans les années 60-70, cette prise de conscience a engendré, lorsque le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre a été créé, a engendré une question importante qui était de savoir comment relancer la production de pommes de terre et surtout comment relancer la consommation de pommes de terre. C'est un problème auquel est confronté le Comité interprofessionnel de manière régulière. Comment la relancer? Eh bien, justement, en essayant de proposer aux consommateurs une multiplication des variétés, chaque variété ayant son usage. C'est-à-dire donc de repasser par le biais du culinaire et de l'alimentation pour inciter à développer de nouvelles variétés de pommes de terre. Bon, cette histoire longue, donc, vous voyez, que l'on peut séquencer avec des pas de temps qui sont extrêmement différents, je voudrais la relire rapidement avec vous. Donc la première étape, c'est celle de l'acclimatation de la pomme de terre en Europe. En fait, c'est une acclimatation qui est passée par différents itinéraires. L'attestation originelle de la pomme de terre nous situe dans l'espace andin, à la frontière Bolivie, Pérou, Chili, à l'articulation des trois pays. Et cette pomme de terre est utilisée dans cet espace. Elle est attestée, en tout cas dans la consommation, depuis 3500 avant Jésus-Christ, mais on considère que les plus anciennes mentions de la pomme de terre nous ramènent bien plus haut encore, dans la cordillère des Andes au Pérou, vers 7000 avant Jésus-Christ. Donc il y a une histoire longue, andine, de la pomme de terre, que l'on pourrait imaginer tout à fait éloigné des préoccupations d'innovation alimentaire, et même là, ce serait faux de le considérer. Dans cet espace andin, on a pris l'habitude, par exemple, pour pouvoir conserver la pomme de terre, de l'exposer de manière alternative au grand froid de la nuit et au soleil ardent du jour, permettant un principe de dessiccation, rendant la pomme de terre dure comme un caillou, une espèce de caillou blanc, permettant de préparer un plat que l'on dénomme le chugno, et qui, par réhydratation, permet d'avoir une pomme de terre qui, toute analogie est mauvaise, mais enfin qui n'est pas si loin que ça de la déshydratation d'une pomme de terre en flocon, et puis qui est réhydratée pour donner une substance quelconque. Cette utilisation de la pomme de terre a engendré, lorsque les conquistadors sont arrivés dans l'univers qu'ils allaient conquérir, aux alentours de 1530-1570, la découverte de cette utilisation de la pomme de terre. Et c'est à partir de là, dans les années 1530-1570, que les premiers trajets de pommes de terre reviennent vers l'Europe. Donc c'est vraiment dans ce milieu de XVIe siècle que l'on peut, d'une certaine manière, démarrer le processus d'innovation, cette fois-ci, c'est-à-dire du transfert d'un certain nombre de variétés de tubercules qui étaient dans l'espace andin, adaptées au climat de montagne, avec un goût supposé assez aigre, en tout cas pas la douceur de certaines pommes de terre que nous pourrions connaître, qui va engendrer l'introduction de la pomme de terre dans l'espace européen. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette introduction qui est rapportée par les conquistadors, qui est réimplantée à l'état sauvage en Galice, va engendrer un intérêt qui est de deux sortes. Et là, il y a un phénomène chronologique qui est assez étonnant. Un intérêt qui est de la substance alimentaire de base permettant de nourrir une population. C'est ce qui justifie que des moines l'hôpital de Séville intègre le plan de la pomme de terre pour nourrir les résidents de l'hospice et les résidents de l'établissement hospitalier. Donc on s'inscrit déjà, dans les années 1570-1580, dans une démarche, vous voyez, d'introduction d'une plante nouvelle, dont on a mesuré assez rapidement le rendement intéressant, et donc la possibilité d'avoir une base alimentaire significative. Mais ce qui est une introduction là très localisée n'a pas d'effet sur une géographie ample. Et à l'inverse, la pomme de terre reste plutôt à ce moment-là de l'ordre de la curiosité, curiosité savante, curiosité des botanistes, mais curiosité qui joue un rôle assez intéressant. Et on peut ranger ces botanistes parmi les acteurs de l'innovation dans la mesure où ils sont ceux qui vont faire passer la pomme de terre d'une simple plante d'ornement. On est dans une logique botaniste esthétique. C'est-à-dire qu'au fond, cultiver la pomme de terre, cette armature de feuilles, cette fleur particulière, cette délicatesse de la pomme de terre, peut en faire un élément non seulement de planche botanique, mais également de plante d'ornement. Et les botanistes ou les agronomes qui vont s'intéresser à la pomme de terre et qui vont échanger les informations entre eux vont assurer ce basculement d'une plante ornementale à une plante que l'on peut cultiver. Alors, que l'on cultive dans des territoires limités, ce sont souvent des jardins botaniques qui sont en particulier ceux annexés aux universités, où la science agronomique prend son essor, et certains personnages vont concourir au développement de cette acclimatation de la pomme de terre, parmi lesquels on peut citer Charles de Lécluse, qui se situe donc à la fin du XVIe siècle, et qui avait été chargé en 1573 par l'empereur Maximilien II d'entretenir un jardin impérial à Vienne. Et dans ses missions, il se trouve que de Lécluse a également été professeur à l'université de Leyde, aux Pays-Bas. Il a créé un jardin botanique, et systématiquement, dans les jardins botaniques, il introduisait les plantes nouvelles dont il avait à connaître. Donc, à partir de ses écrits, on sait qu'il a reçu le plan de pomme de terre en 1588, et qu'à partir de là, il l'a acclimaté dans un jardin botanique. D'autres agronomes, comme les frères Bohun, qui étaient botanistes à l'université de Tübingen, puis à Zurich, à Bologne également, puis à Montpellier ensuite, ont concouru aussi à acclimater, à faire connaître et à enregistrer la pomme de terre dans un catalogue de botanique qui atteste donc véritablement de la connaissance du tubercule sous différentes formes à l'extrême fin du XVIe siècle, en 1596. Olivier de Serres, autre agronome qui a concouru au développement de cette pomme de terre, lui aussi a beaucoup laissé dans ses textes des informations sur l'acclimatation possible de la pomme de terre. Ce que ces agronomes intégrant la pomme de terre dans les jardins botaniques posent comme question, c'est quels sont les itinéraires par lesquels cette pomme de terre l'aurait connue. Et c'est donc à travers la reconstitution de ces itinéraires, bon, c'est une histoire qui manque de sources exploitées, c'est-à-dire que pour l'instant, on a un peu tendance à répéter ce que l'on a pu observer déjà ou ce qui a déjà été dit. À l'occasion du colloque, un collègue de Besançon, Paul Delsalle, avait relu les travaux des Bohun et donc avait mis en exergue un certain nombre de faits nouveaux. Mais enfin, globalement, il n'y a pas de grande révolution dans cette connaissance. Ce que l'on peut mettre en évidence dans le processus d'innovation, c'est l'existence, en gros, de deux trajets d'introduction de la pomme de terre en Europe. Il y a une voie que l'on peut considérer, que l'on pourrait appeler la voie continentale. La voie continentale, c'est celle qui fait passer de l'espace d'Amérique du Sud vers l'Espagne et vers l'Italie. Donc là, le processus est en fait, par un certain nombre d'acteurs de l'innovation, la circulation de la pomme de terre. On développe la connaissance de la pomme de terre, on se transmet des plants, on se transmet des tubercules, et on voit un itinéraire qui fait Espagne, Italie, et puis qui, par l'Italie, remonte vers la Franche-Comté, et vers la Franche-Comté, arrive jusqu'aux Pays-Bas. Et puis, il y a une deuxième voie qui est la voie insulaire, qui est une voie septentrionale qui a contribué à faire un lien de connaissance de la pomme de terre entre le nord-est de l'Amérique du Nord, où la pomme de terre avait remonté depuis l'Amérique centrale, et d'Amérique du Nord allant vers la Grande-Bretagne, vers l'Irlande et vers les îles océaniques. Et donc il y a, avec ce deuxième itinéraire, un itinéraire Amérique du Nord, Irlande, Grande-Bretagne, qui est un itinéraire plus insulaire, alors que l'autre itinéraire de la pomme de terre est, lui, plus continental. À travers ces deux itinéraires, on peut mettre en évidence deux éléments. D'abord, les variétés qui circulent dans ces deux itinéraires ne sont pas les mêmes. Et il y a donc des prédilections variétales qui vont s'inscrire dans le temps entre ces deux itinéraires. Le deuxième élément que l'on peut mettre en évidence, c'est le rôle de la propagation par des acteurs improbables de l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui émergent dans cette histoire parce qu'on a une trace écrite, et puis il y a des personnages dont on ne saura jamais rien, mais qui pourtant ont été des introducteurs de la pomme de terre essentielle. C'est par exemple les marins qui, partant avec la pomme de terre comme cargaison permettant d'éviter le cargaison alimentaire permettant d'éviter le scorbut, vont contribuer d'île en île, ou bien simplement en perdant leur cargaison parce que le bateau a été attaqué et le butin dans son intégralité est emporté par les assaillants, vont contribuer à créer de multiples itinéraires qui permettent de propager la pomme de terre à travers les différents continents. Ce que le colloque montrait, c'est que vers l'Inde comme vers la Chine, le développement progressif de la pomme de terre s'est étalé durant tout le XVIIe siècle, et qu'au fond, à la fin du XVIIe siècle, la connaissance de la pomme de terre, sa diffusion, est attestée à peu près partout, mais ça ne signifie pas pour autant qu'elle soit consommée. Alors, sa consommation, elle va provenir de deux facteurs principaux. Le premier, c'est le rôle que les élites agronomiques ont pu contribuer à avoir pour développer cette consommation de la pomme de terre en mettant en lumière la diversité des usages. Alors, ces élites agronomiques doivent vous rendre un hommage particulier pour ce cadeau, parce que la panification de la pomme de terre faisait partie du travail qu'un certain nombre d'agronomes essayaient de mettre en situation comme une alternative aux céréales, mélange avec le froment, ou comme une possibilité d'amélioration des rendements agricoles en jouant sur l'intérêt de l'intégration de la pomme de terre. Et puis il y a, et donc là d'ailleurs on trouve les élites agronomiques, mais on trouve aussi les académies de province qui, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mettent au concours annuel des sujets sur lesquels on essaye de réfléchir. C'est le cas par exemple à Rouen. Rouen en 1767, c'est le cas aussi à Besançon en 1771. Alors je n'ai pas trouvé la trace pour Caen, mais on peut imaginer qu'il y ait forcément une question à un moment donné qui a été posée dans l'espace normand, même si en 1767 c'était à Rouen. En tout cas, ces enquêtes, ces concours qui contribuent à développer les emplois possibles de la pomme de terre vont ensuite être portés par une utilité plus directe qui est celle des guerres. C'est-à-dire que l'avantage particulier de la pomme de terre est de pouvoir rester, comme l'évoquait l'affiche de la FAO, un trésor enfoui, et donc il pouvait être cultivé comme une subsistance qui éventuellement pouvait passer, sinon inaperçu, en tout cas pouvait rester masqué et conservé dans le sol. Donc c'était un moyen de contourner le ravage des récoltes qui, dans toutes les guerres du XVIIe siècle, est un fait saillant qui pose le problème de la nourriture des populations confrontées à la guerre. Alors, rôle des élites agronomiques, rôle des guerres, rôle des initiatives d'élites politiques, vous voyez que les vecteurs de diffusion sont multiples et petit à petit, on voit l'introduction de la pomme de terre avec une consommation qui, localement, peut être celle à partir des jardins, c'est-à-dire qu'il y a une consommation locale qui se fait parce que la pomme de terre est introduite dans des jardins et en particulier dans tout l'espace, l'arc nord-est de l'Europe, ou bien qui peut être introduite parce que, à l'initiative d'une élite agronomique quelconque ou d'une société d'agriculture quelconque, eh bien on essaye d'en développer les usages. Si l'on essaye de saisir comment se fait cette acclimatation de la pomme de terre, les textes que l'on peut mettre en situation montrent quelles sont les préoccupations. Voilà ce que Charles de Lécluse en 1601 pose comme évidence pour introduire la pomme de terre. Ces tubercules sont non moins nourrissants que les châtaignes après les avoir dépouillés de leur épiderme car ils s'épluchent facilement. Je les ai fait cuire entre deux plats, dans une sorte de diable hein, sans doute. Je les ai dégustés après macération dans une sauce grasse de navet et de mouton. C'est présenté comme une sorte d'alternative possible à des consommations populaires plus médiocres, celle du rave en particulier. Le journal de l'Indre en 1845, Jean-Edmond Brionne fait partie de ces agronomes, ces élites agricoles que vous évoquiez tout à l'heure, qui essayent de promouvoir l'utilisation de la pomme de terre éventuellement par sa panification avec des calculs économiques particulièrement précis et qui permettent donc de concourir à son emploi. Ce qui va ensuite être un facteur absolument essentiel de l'introduction de la pomme de terre, c'est le rapport qui va exister entre l'obtention dans le temps de récoltes qui assoit la subsistance, la disponibilité de la main-d'œuvre pour permettre des méthodes culturales qui sont finalement assez simples. Hein. Il y a une économie agricole de la culture de la pomme de terre qui est assez vite maîtrisée. Les innovations en termes culture ne vont intervenir que véritablement à la fin du XIXe siècle. On va modifier les méthodes culturales et pendant très longtemps, la culture de la pomme de terre est assimilée assez vite. En revanche, on discute sur les types de fumures, on discute sur la nécessité de buter les plants ou pas, mais ce sont des discussions qui finalement sont assez simples, avec des méthodes culturales qui, en revanche, n'écartent pas un certain aléatoire. Et donc, les rendements de la culture de pommes de terre ne sont jamais véritablement assurés, mais le fait que le développement de la culture, l'extension de la superficie agricole consacrée à la pomme de terre ait tendance à croître au cours du XIXe siècle atteste que c'est par extension de la culture que l'on est arrivé à obtenir des rendements de plus en plus élevés. Les méthodes culturales ne peuvent pas empêcher au cours du XIXe siècle, on est donc là dans un processus accentue considérablement le développement de la consommation, les méthodes culturales ne peuvent pas empêcher la confrontation à un certain nombre de problèmes. Les problèmes sont principalement trois types de maladies que l'on va observer au cours du XIXe siècle et que l'on arrivera à maîtriser ou à bien connaître seulement à partir des années 20, voire même des années 50, lorsque l'analyse scientifique permettra de poser un raisonnement un petit peu plus détaillé sur les trois maladies que sont le mildiou, l'enroulement des feuilles également, et puis Le problème auquel beaucoup de cultivateurs vont être confrontés, celui du développement des épidémies liées au doryphore, l'invasion du doryphore, dont la première séquence a été connue en 1874-1878. On a lutté avec les moyens du bord. Une invasion qui a été beaucoup plus durable et beaucoup plus dramatique après la Première Guerre mondiale, 1920-1922, invasion de doryphore face à laquelle les solutions que l'on a déployées étaient finalement assez simples. Employer les enfants des écoles pour aller ramasser les doryphores dans les champs, tout simplement, hein, ou bien la recherche de procédés chimiques qui ne sont connus en réalité qu'à partir des années 20 ou des années 30. Le développement de l'industrie des insecticides est né en particulier de la recherche de moyens de lutte contre le doryphore dans les années 20 et dans les années 30. Doryphore qui a occupé, après une invasion dans les années 20, qui a occupé progressivement tout le territoire jusqu'aux années 1935-1938. Bon, donc les moyens de lutte ne sont devenus scientifiques et d'une certaine manière efficaces qu'à partir des recherches engagées dans les années 1920-1930. Mais au cours du XIXe siècle, lorsque les méthodes culturales qui sont stabilisées sont employées, elles ne permettent que très marginalement de lutter contre ces fléaux que sont l'enroulement de la feuille, le mildiou ou bien les attaques de doryphore. Donc la consommation de la pomme de terre était limitée forcément par les récoltes et par les rendements, étant entendu que depuis le début du XIXe siècle, son intégration dans le régime alimentaire était devenue petit à petit un élément nouveau de diversification de l'alimentation, à la fois de l'alimentation populaire, donc un chemin qui s'est déployé à partir de la fin du XVIIIe siècle, soit par son intégration gastronomique, c'est-à-dire la recherche de l'introduction de la pomme de terre sur les tables bourgeoises, basculement qui s'est opéré en gros dans les années 1820-1830, hein, où l'on voit que l'introduction de la pomme de terre passe par la table bourgeoise avant même de se développer dans la table populaire. La réticence à la consommation avant ces basculements était liée en particulier soit au goût qui n'était pas apprécié, soit au fait que c'était considéré comme une nourriture plutôt dédiée aux animaux, puisque c'était aussi l'un des usages que l'on mettait en avant, soit à toute la symbolique qui était associée à ce tubercule, à ce rave venu du sol, qui engendrait que cette consommation de la pomme de terre ne puisse pas être perçue comme une consommation noble. Donc résistance populaire, résistance d'une consommation un peu améliorée sur le plan culinaire, ces résistances, on en triomphe à partir du début du XIXe siècle. Et là, le développement des récoltes permet à ce moment-là de l'introduire très largement dans les consommations populaires. Introduire très largement dans les consommations et développer une économie, une véritable économie de marché qui va favoriser le développement de certains départements. Et très curieusement, les départements que nous connaissons aujourd'hui comme étant les principaux départements producteurs de pommes de terre ne sont pas nécessairement au XVIIIe siècle et au XIXe siècle ceux qui sont les plus importants. Au XVIIIe siècle, on observe en quelque sorte une sorte de saupoudrage de lieux et de villes dans lesquelles ou de proximité des villes dans lesquelles l'implantation de la pomme de terre se développe. Au cours du XIXe siècle, on voit par exemple dans les départements qui sont les premiers, ceux du Nord, de l'Est, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, du Limousin, où il y a une production, quand on utilise comme critère pour classer les départements le rapport entre la superficie et le rendement qui est obtenu, avec toutes les précautions qu'il faut prendre sur les statistiques, mais enfin, en prenant sur une longue durée, on a une tendance qui est observée. Au cours du XIXe siècle, les départements principaux de la production de la pomme de terre ne sont pas ceux que l'on connaît aujourd'hui. Ce n'est qu'à partir des années 1910-1920 que le foyer de production de la pomme de terre en Bretagne et dans le Nord s'affirme. Dans le Nord, parce qu'il y a une situation de marché avec une consommation populaire liée aux villes industrielles qui contribuent à développer le marché de la pomme de terre. En Bretagne, c'est une toute autre raison, c'est le fait que l'on ait observé dans le contexte des maladies que j'évoquais précédemment, et en particulier du mildiou, que les variétés de pommes de terre qui étaient les plus précoces, vous savez que les cycles de pommes de terre peuvent varier évidemment dans le calendrier, les pommes de terre qui étaient les plus précoces étaient en même temps celles qui étaient les plus résistantes. Donc, choisir de planter des pommes de terre à récolte précoce, c'est-à-dire vers mai ou juin, permettait un double avantage. D'une part, résister aux maladies, et puis deuxièmement, alimenter des marchés que l'on va dénommer les marchés de primeur ou des marchés d'exportation, et en particulier vers la Grande-Bretagne où il y a une très forte demande. Très forte demande qui s'est en réalité instruite dès le milieu du XIXe siècle à la faveur de la crise de la pomme de terre que l'on avait constatée en Irlande. Donc, ce développement du marché de la pomme de terre a engendré que certains départements, parce que les conditions climatiques étaient bonnes, se penchent sur le développement de variétés et de sélection de plants. Ce que l'on a observé comme un des traits du développement de la filière pomme de terre en Bretagne à partir des années 20. L'aire Bretagne, Normandie, Seine-Maritime, Pas-de-Calais, Nord, Somme, c'est un développement qui prend corps véritablement à partir des années 1910, 1930. Et à cette configuration géographique ouest et nord s'ajoute une configuration géographique de production de pommes de terre plutôt de montagne, donc Limousin, Ardèche, Hautes-Alpes, Dauphiné, Vosges, Bas-Rhin, qui ont été des régions de développement de la pomme de terre plus en amont, c'est-à-dire au 19e et à la fin du 18e siècle. Donc des marchés, vous voyez, qui ont évolué en termes de géographie, mais qui n'empêchent pas de constater que même s'il y a des pôles de développement de la production de la pomme de terre, il y a aussi, quand on prend un certain nombre de cartes d'atlas ou de localisation, le phénomène quasi unanime de développement dans de très nombreux départements, généralisation de la culture qui atteste aussi généralisation de la consommation. Donc le processus d'innovation s'est développé, en particulier aussi avec le développement et la mise au point d'un certain nombre de variétés qui ont, par leur rendement, une pérennité qui permet d'avoir de plus en plus de récoltes et qui a affirmé donc un certain nombre de variétés dont certaines sont très connues, je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais enfin, la binge, par exemple, est une pomme de terre dont la variété existe toujours, bien que difficile à trouver. Donc là, ce sont des éléments qui attestent l'innovation. Et alors, cette innovation de la consommation et de la culture, elle a ensuite été portée par le développement de méthodes culturales permettant de choisir des tubercules avec des variétés plus appropriées en termes de rendement, et puis d'associer un certain nombre de variétés à des cultures extensives. Et on a pu observer également que plus les variétés étaient résistantes, plus elles sont parties vers la grande culture extensive, plus les variétés étaient fragiles, mais éventuellement productives en tant que pommes de terre primeurs ou précoces, plus elles investissaient les jardins familiaux. Bon, donc il y a deux segments de marché en réalité qui se sont développés à partir de la fin du 19e siècle et qui ont été renforcés progressivement au cours du 20e siècle. Alors ce que l'on peut observer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est le développement de cette production de la pomme de terre associée au développement de la consommation avec une très forte mécanisation mais qui est inégale à la fois selon les régions, hein, même si la culture extensive se déploie en revanche. Il y a des régions qui sont plus orientées vers la grande culture et d'autres qui ont la pomme de terre plutôt comme une culture complémentaire. Les régions qui ont développé la grande culture de pommes de terre ont été celles où la mécanisation, évidemment, s'est faite de manière prioritaire. Mais une mécanisation qui est plus le fait de la seconde moitié du XXe siècle qu'elle ne l'était malgré la révolution agricole de la fin du XIXe siècle, lorsque l'on observe la situation de la mécanisation dans les années 50. L'arrachage est la partie qui est la plus mécanisée en 1950. En revanche, les planteuses restent marginales et on continue d'exploiter une main-d'œuvre peu chère pour le plant. Les pulvérisateurs ne sont pas particulièrement développés non plus, ce qui atteste du retard, enfin il n'y a pas de vision positiviste là-dedans, mais du décalage dans le temps entre la mécanisation, par exemple, de l'arrachage, où on cherche à gagner du rendement, hein, et l'utilisation d'un certain nombre de travaux culturaux comme la pulvérisation des insecticides. Retard que l'on observe aussi avec les trieuses mécaniques qui ne sont introduites dans le processus cultural que depuis les années 1970. Donc mécanisation qui a été relativement lente, et puis de cette mécanisation et de ce développement des cultures, donc qui atteste la très large consommation de la pomme de terre, on pourrait passer à un autre aspect qui est celui des consommations alimentaires et comment l'innovation des cultures, l'innovation du point de vue territorial avec le déploiement de ces cultures de pommes de terre, comment ça s'est traduit, la sélection des variétés, comment ça s'est traduit ensuite dans le choix culinaire, alimentaire et gastronomique. Alors, choix culinaire et gastronomique, il faut aller là sur des sources documentaires qui sont assez saupoudrées et qu'il faut essayer de rassembler les unes avec les autres pour arriver à une vision globale de ce qu'a été l'évolution gastronomique ou culinaire de la consommation de la pomme de terre. En termes d'innovation, comment les choses ont évolué. Deux sources qui sont comparées, l'une de 1936, le Larousse gastronomique de Prosper Montagnier, et puis l'ouvrage de Ginette Mathiot, Je sais cuisiner, 1956, avec des rééditions infinies et multiples. Ce que l'on peut observer entre 1936 et 1956, c'est la réduction d'un certain nombre de recettes consacrées aux pommes de terre rissolées et sautées ou aux autres fritures écrasées, purées ou garnitures. En fait, c'est la réduction du nombre de types de recettes que l'on observe plutôt qu'une sélection d'un type de recette. C'est-à-dire que dans les évolutions alimentaires et gastronomiques, la comparaison entre le Larousse gastronomique et l'ouvrage de Ginette Mathiot permet surtout de constater que dans le domaine gastronomique de la grande restauration, l'ensemble des recettes qui sont utilisées déploient une variété alimentaire assez importante et qu'au contraire, lorsque l'on passe dans l'espace domestique, on se concentre sur des usages qui sont des usages de commodité. Et donc l'usage de commodité a engendré une demande alimentaire qui a été de simplification du travail ménager que l'on connaît dans d'autres domaines et qui affecte la pomme de terre avec le développement que j'évoquais tout à l'heure des industries alimentaires. Développement des industries alimentaires qui est attesté par l'introduction de simplification, diminution de la pénibilité avec ces différentes utilisation de la pomme de terre déshydratée, de la pomme de terre surgelée et de la pomme de terre transformée pour pouvoir répondre à des usages multiples. Ce basculement se fait aux États-Unis à partir des années 1930-1940. Des dates significatives, l'introduction en 1929 de la machine à peler automatiquement aux États-Unis qui va permettre de développer une industrie de la friterie. Développement du sachet en papier marron qui va permettre de fabriquer des paquets de chips que l'on retrouve aux États-Unis dans les années 30 ou en Angleterre à peu près à la même époque, qui favorise le développement du marché des chips, qui permet aussi d'introduire sur les paquets des publicités, des préconisations d'utilisation aux consommateurs. Tout ceci vient répondre au développement d'un marché de l'industrie de la transformation de la pomme de terre qui répond à des simplifications d'usage. Mais ce basculement vers l'industrie de la transformation, États-Unis, Angleterre, 1930, n'est véritablement connu en France qu'à partir des années 60 et ne porte son plein effet en réalité qu'à partir des années 70 ou 80. Il y a un décalage en termes d'innovation dans ce basculement qui est tout à fait manifeste en France. Réticence à la consommation de la pomme de terre, acceptation de la consommation de la pomme de terre transformée. Il y a des enjeux qui sont des enjeux de mentalité sur lesquels on pourrait s'apesantir longuement, qui concourent à expliquer comment le processus d'innovation et de l'industrie de la pomme de terre transformée a pu convaincre des segments de clientèle multiples à partir de l'image que la pomme de terre portait en elle. Les défauts, dans une grande enquête qui a été conduite en 1974, les défauts ou les qualités que l'on reconnaissait à la pomme de terre sont tout à fait caractéristiques de l'esprit de l'époque et de l'orientation de la demande. On considère la pomme de terre comme bourrative dans 74% des cas, on considère qu'elle fait grossir dans 69% des cas, que c'est lourd en 25%, non équilibré 34%. Vous voyez comme les opinions peuvent être partagées, alors que certains, à 74%, considèrent qu'elle peut être bourrative, 66% considèrent qu'elle est tout à fait digeste. Donc, l'enquête, comme toujours, dit ce qu'on veut lui faire dire. Mais en réalité, les enquêtes qui ont été développées dans les années 60-70 pour comprendre quelle était la réticence à la consommation de la pomme de terre et la diminution de la consommation de la pomme de terre fraîche, ces réticences sont portées aussi par le développement d'une industrie de la pomme de terre transformée. Les flocons, les chips, les différents produits finis, et on voit bien la montée en puissance de cette industrie à partir du début des années 70, c'est-à-dire l'introduction de mousseline en 63, l'introduction de Vico en 60, enfin, bon, tout le développement de cette industrie de la pomme de terre transformée atteste d'une séquence d'innovation qui est très importante, qui est pratiquement l'équivalent de ce qu'a été la séquence d'innovation des années fin 18e siècle, début 19e siècle, lorsque l'admission de la pomme de terre sur les tables en a fait un aliment de base et en même temps un aliment gastronomique. Aujourd'hui, on est rendu à moins de 30 kilos par habitant par an en termes de pommes de terre fraîches. À l'inverse, il y a une industrie de la pomme de terre transformée qui s'est localisée dans un certain nombre de départements et avec des géants mondiaux. Alors, je ne fais pas allusion à McDonald's, mais on peut faire allusion en revanche à McCain qui a implanté en Europe, qui a implanté en France sa plus importante usine d'Europe pour la production de frites surgelées. Basculement en termes de consommation qui s'est opéré à partir de la fin des années 80. Donc on est entré là dans un développement de consommation de la pomme de terre qui aujourd'hui offre deux segments. D'un côté celui de la pomme de terre transformée qui n'est en réalité que la facilitation pour la consommation domestique ou de la restauration collective d'une pomme de terre qui est déjà préparée et transformée et qui est toute prête, d'un côté, et de l'autre, dans l'évolution du marché, la segmentation du marché de la pomme de terre fraîche avec une spécification des types de variétés qui peuvent être développées dans leur diversité, à la fois par l'intégration de pratiques culturales dont la transformation a procédé des enjeux des années 20 et 30, en particulier avec la crise du Doryphore, mais également avec le système de contrôle du plan qui a permis d'aller vers une agriculture beaucoup plus scientifique, en gros dans les années 1930-1940. Alors c'est véritablement une cavalcade sur la pomme de terre Chaque segment mériterait d'être analysé en profondeur, mais je pense que j'ai déjà été totalement déraisonnable quant à l'utilisation de mon temps. Merci.